Mesdames, Messieurs, voici le résultat du vote pour l'élection du président. Votants 92. La majorité absolue est de 47. Exprimés 85. Nul 1. Blanc 6. Monsieur Lecor 6. Monsieur Gauthier 27. Monsieur Guichard 52. En conséquence, je déclare M. Olivier Guichard élu comme président du Conseil de l'État. Mes chers collègues, la confiance que vous venez de me témoigner me sera précieuse pour mettre sur la bonne voie la nouvelle collectivité régionale. Le suffrage universel direct lui donne désormais une dimension différente de celle qu'avait occupée l'établissement public que j'ai eu l'honneur de présider. Il convient d'en mesurer les possibilités et les limites, et permettez-moi de vous faire part brièvement des quelques points d'ancrage autour desquels doivent, à mon sens, s'organiser la conception et la mise en œuvre de nos actions. Mais auparavant, je voudrais remercier en votre nom le CRDP et son directeur, M. Boulard, qui a mis si aimablement à notre disposition ses locaux. À quelques mois près, nous aurions pu tenir cette séance d'installation dans notre immeuble régional en bordure de Loire, sur cette île Beaulieu où se dessine le Nantes de demain. L'établissement public, mes chers collègues, a voulu montrer la voie d'une décentralisation patiemment construite et amplifiée avec prudence, mais efficacité. Et je tiens à rendre hommage à nos prédécesseurs qui ont su réunir, plutôt que disperser leurs efforts, ainsi que ceux des collectivités communales et départementales qui composaient la région. Ce n'était pas facile et je remercie le président d'avoir exprimé tout à l'heure ses remerciements à nos prédécesseurs. Ce n'était pas facile parce qu'il fallait trouver la voie entre les réflexes jacobins d'une administration centrale omniprésente et les réflexes d'autodéfense des départements. Entre ces deux masses administratives anciennement et profondément ancrées dans notre pays, il fallait, à la jeune et fragile région, trouver sa justification. Et c'est dans la légèreté même de la nouvelle institution qu'ils ont trouvé ses vertus principales. Ils ont apporté souplesse, imagination et pragmatisme à une action de l'État et des collectivités locales, trop souvent englués dans leurs pesanteurs historiques, et en intervenant là où il le fallait pour provoquer les effets de levier nécessaires. À l'aide d'un budget régional modeste, certes, mais consacré pour l'essentiel aux investissements prioritaires, ils ont joué, aidés par une administration convaincue, le rôle que j'avais imaginé il y a plus de 20 ans pour la délégation à l'aménagement du territoire au plan national. Et fort de la solidarité des collectivités locales, ils ont pu négocier avec l'État des décisions d'investissement importants. J'évoque, mes chers collègues, cet état d'esprit, non pas du tout par nostalgie, mais parce que je suis persuadé qu'il doit inspirer plus que jamais nos choix, nos actions et nos méthodes. Les règles du jeu régional sont changées du fait de l'élection au suffrage universel, et de l'application du statut de collectivité territoriale, vous êtes désormais des représentants de la région. Vous n'êtes plus des représentants au sein de la région, de la nation, d'un département ou d'une commune. Nous aurons donc moins à nous préoccuper des frontières communales ou départementales, ou si nous le faisons, ce sera pour d'autres raisons. Nous représentons une population sur un territoire régional, de Mamers au Sable-d'Olonne et du Croisic à Fontevraud, et cependant, cette légitimité nouvelle va évidemment chercher sa place et son rôle dans le système administratif français. Sommes-nous une collectivité territoriale comme les autres, placée dans leur hiérarchie entre l'État et le département, ou bien sommes-nous une entité différente? Il faut bien reconnaître que les réponses apportées par les textes sur la décentralisation sont ambiguës. Et je le dis, croyez-moi, non pas pour me livrer une nouvelle fois à leurs critiques, mais simplement pour déterminer les quelques points de repère qui doivent nous aider à formuler notre conception de la région. Je ne pense pas que nous ayons intérêt à nous ériger en échelon administratif supplémentaire, apportant ses propres interventions, mais aussi ses propres règles, ses contrôles, bref, ses lourdeurs, ses coûts inutiles et ses conflits éventuels avec les autres collectivités. Ces risques-là existent. Tout simplement parce qu'il sera difficile de limiter les dimensions, les ambitions d'une assemblée élue au suffrage universel. Mais il ne suffit pas de faire de la région une collectivité territoriale à vocation spécialisée, comme le disent les textes, pour endiguer ces risques. Tout d'abord, la définition de la vocation spécialisée de la région est suffisamment large pour lui permettre de s'intéresser à beaucoup de choses. La loi dit que le Conseil régional a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire et scientifique de la région et l'aménagement de son territoire, et pour assurer la préservation de son identité dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des communes. On pourrait déduire de cette définition, et pour la résumer, que la vocation de la région n'est pas la gestion, mais l'investissement, comme l'établissement public régional l'avait montré. Il est vrai que d'autres pratiques vont à l'encontre de cette affirmation. Le transfert depuis 1983 de la formation professionnelle et depuis cette année des lycées comporte une part très importante de tâches de gestion courante. De plus, rien n'interdit désormais à la région de développer des actions de fonctionnement et pas seulement en développant un personnel propre important comme certaines d'entre elles l'ont fait, mais encore en intervenant dans le fonctionnement d'un grand nombre d'organismes. Jusqu'à maintenant, mes chers collègues, notre région des Pays de la Loire s'est gardée des risques de diluer son effort dans des opérations de fonctionnement. Je crois que nous devons nous inspirer de cette sagesse pour nous consacrer à ce qui demeure à mes yeux l'essentiel, les investissements, car sans eux, peu de création d'activités, donc d'emplois, pas de formation adaptée des hommes et pas d'amélioration de la qualité de la vie. Ces priorités-là demeurent cependant. L'équipement en moyens de communication de notre région n'est pas achevé, le niveau de culture scientifique et technique de nos jeunes est insuffisant, et quant à la qualité de la vie, nous avons trop d'atouts reconnus pour ne pas continuer à les exploiter. C'est un vaste programme et nous ne pourrons pas le réaliser seuls sans des relations de travail étroites avec les autres collectivités. Mais ces relations doivent être nourries au préalable par une vision de l'avenir qui prenne compte de la situation de notre région entre l'Europe et le monde. L'Espagne et le Portugal font désormais partie de la communauté européenne. De l'autre côté, la décision de creuser le tunnel sous la Manche a été prise et des décisions pour développer les transports ferroviaires entre le nord et l'est de la France et de l'Europe ne tarderont pas à intervenir. C'est dans cette perspective, vous le savez, que depuis 10 ans, nous avons programmé et entamé la route des estuaires, la liaison Alençon-Le Mans-Tours ou nos liaisons autoroutières avec le centre Europe. L'État, mes chers collègues, devra en effet, et M. de Villiers le disait tout à l'heure, l'État devra reprendre conscience des déséquilibres particuliers de l'Ouest qui exigent une politique spécifique. Quant à nous, fidèles à notre constante politique, nous consacrerons à l'investissement productif la quasi-totalité de nos ressources. Notre région tout entière doit savoir que son conseil ne se laissera pas entraîner dans les dépenses de fonctionnement que ne justifieraient pas ses compétences, et ainsi nous confirmerons la réputation de qualité et de sérieux qu'avait su acquérir notre ancien établissement public, tout en construisant le dynamisme et l'efficacité de notre nouvelle collectivité. Alors, mes chers collègues, nous avons...